au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. De nombreuses études démontrent que faire du bénévolat contribue au maintien de la santé physique et mentale. Par exemple, le fait de demeurer actif contribue à réduire les douleurs chroniques, les symptômes de maladies du cœur, sans compter qu'il rehausse la confiance en soi, suscite un sentiment de fierté et permet d'éviter l'isolement social. Le bénévolat aide à nouer de nouvelles amitiés, à développer de nouvelles habiletés. Plusieurs bénévoles, d'ailleurs, se réjouissent d'exercer leur talent au profit d'une bonne cause. Afin de saluer l'œuvre de milliers de personnes engagées auprès de leur collectivité, nous recevons avec grand plaisir Ronald Grenon, qui a trouvé une source d'accomplissement dans l'action bénévole et a découvert, il y a 15 ans, les bienfaits du bénévolat. Bonjour à vous, M. Grenon.
Bonjour, Armand. Comment ça va?
Ça va très bien. Donc, pour vous, depuis 15 ans, c'est le parfait bonheur depuis que vous donnez du temps auprès des gens qui en ont vraiment besoin.
Parfait bonheur, oui, sûrement. Autant pour moi que pour ceux à qui j'apporte...
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement?
Ça m'apporte... Il faut... Quand on est à la retraite, il faut se sentir utile. Il faut... J'aime appartenir à une gang, hein, on sait. Hein, lorsqu'on est au travail, ben, on fait partie d'une équipe et puis du jour au lendemain, on laisse tout ça... puis là, ben, ça prend... Il faut le remplacer. La façon de le remplacer, je crois que dans le bénévolat, ben, on rencontre beaucoup de monde. Il y a des nouvelles amitiés, il y a des nouvelles...
C'est important, vous avez parlé d'utilité, on a beaucoup parlé de votre action bénévole la semaine dernière. On va essayer de s'attarder un petit peu à qui est Ronald Grenon. Donc, vous venez de la région de...
Des poissons, des chenaux, je ne sais pas, Saint-Ubald, comté de Portneuf, je ne sais pas si
Portneuf.
Si ça vous dit quelque chose, c'est un... Il y a à peu près, je ne sais pas, 2000 personnes.
Ah, je pensais que vous alliez dire 2000 poissons des chenaux.
Non, mais c'est un petit peu à l'extérieur de ça. Mon père était cultivateur. On était 5 à la maison.
Vous avez quand même perdu votre mère alors que vous étiez très jeune.
Oui, j'étais... En 1950, je suis né en 42, donc j'allais avoir 8 ans à ce moment-là. Et puis ma mère est décédée à la suite d'un accouchement. On n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé. Vous savez, la médecine d'époque, ce qu'elle était aujourd'hui, on n'avait pas les soins, tout se faisait à domicile. Les médecins visitaient les malades à domicile, fait que...
Cette absence maternelle, ça vous a beaucoup marqué?
Oh oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile.
Parce que le père se retrouve avec 5 enfants?
Oui, maintenant, le plus jeune est donné en adoption à un de mes oncles, un frère de mon père. La fille, parce que j'ai une sœur, elle est prise au village chez ses grands-parents.
Donc, une famille qui est obligée d'être divisée, en quelque sorte.
Oui, le plus jeune, c'est sûr qu'il y avait 15 jours. Lui, c'est notre frère, mais il n'a pas été élevé avec nous autres. Ma sœur est revenue lorsqu'elle était assez vieille.
Est-ce que vous avez pu retrouver ce frère?
Oui. On se voit, d'ailleurs. Il était dans la paroisse voisine, chez un des frères à mon père. Fait qu'on ne l'a jamais laissé tomber. Et on s'est revus de plus en plus, puis il fait partie de la famille maintenant.
Et vous avez fait l'école de rang. Ça veut dire qu'on se retrouve dans la même classe pendant longtemps.
De la première à la septième année.
Dans la même classe. Même professeur?
Oui.
Ah, aussi?
Oui, avec le poêle à bois. Et le professeur demeurait sur place. Elle avait sa chambre.
Elle était gentille, je suppose.
Ah, oh, ben oui. Ben, à un moment donné, c'est une voisine qui était professeure, a été une de mes professeurs, et Je la connaissais, elle était ma voisine, mais c'était mon professeur. Ça a amené des situations un peu...
Cocasses.
Oui, ouais, on peut dire.
C'est presque les belles histoires des pays de Portneuf.
Oui, sûrement, oui.
Alors, on va entendre le petit attagio extrait des saisons d'Alexandre Glazounov. Je blaguais avec les belles histoires parce que ça a été le thème des belles histoires des pays d'en haut. Et c'est l'orchestre du Minnesota sous la direction d'Edo Devart qui interprète le tout. C'est votre choix, Ronald. Très beau choix pour commencer l'émission. Oui, vous avez reconnu probablement le thème des belles histoires des pays d'en haut. En fait, c'est l'adagio, un extrait des saisons d'Alexandre Glazounov. On parle donc de l'enfance de Ronald Grenon. On a beaucoup parlé de son action bénévole. Donc, vous êtes à l'école et puis vous avez ensuite été pensionnaire chez les frères de à Saint-Romuald.
Saint-Romuald, oui. Ça a été, quand j'y pense... De septembre à février. C'est que Mes notes n'étaient pas assez fortes pour monter en huitième année.
Ah là, vous pouvez le dire maintenant.
Oui, oui, oui. Et les frères faisaient les écoles là, pour avoir du recrutement. Et puis, ils m'avaient accepté en huitième année. Alors, j'ai décidé d'aller là. Mais j'ai découvert un monde pas mal différent que j'avais toujours connu. Hein? On était, je ne me souviens pas là, dans combien ce qu'on était là, de pensionnaires. Là. Et puis, un jour, il s'est passé... vous avez les frères, il s'est passé un acte de violence dans ma classe, et puis fait par un frère, et cette journée-là, j'ai dit, en moi-même, j'ai dit, toi, tu ne me toucheras jamais. Et j'ai écrit à mon père, j'ai dit, viens me chercher, c'est fini.
Ça pouvait arriver. Il y a eu effectivement des incidents semblables, ce qui ne veut pas dire que c'était partout la même chose.
Non, non, mais pour vous, je l'ai vécu.
Ça a été difficile.
Oui.
Donc, vous êtes sorti de ce collège?
Oui, en février. Et là, j'ai continué l'école, mais c'était pas l'école de rang. Là, c'était l'école du village. Là. Et là, on était voyagés par des petits autobus.
Et là, on se retrouve presque adolescent, on avance oui, dans le temps. Oui, oui. Vous étiez de tendance un peu solitaire?
Beaucoup.
Beaucoup?
Beaucoup solitaire. Ah oui, oui. J'ai découvert là, dans le grenier, l'été, c'était très chaud, l'hiver, c'était froid, ils n'étaient pas chauffés. Il y avait des journaux et j'allais lire les bandes dessinées.
Si je vous mentionne une chanson, celle de Françoise Hardy, « Tous les garçons et les filles », ça vous évoque un souvenir?
Oui, oui, « Tous les garçons et les filles de mon âge », ça, c'est un petit peu moi, ça, parce que je me reconnaissais dans cette... Surtout, même après, dans mes études, après le secondaire, où là, à ce moment-là, j'étais... fait mes études techniques à Shawinigan. Et puis, cette chanson-là venait me chercher parce qu'elle me décrivait pas mal.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Pour moi brillera le soleil. quelqu'un qui m'aime.
Qui n'a pas fredonné cette chanson de Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles? Ça rappelle souvent aussi nos premières amours pour une certaine génération.
Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas mal différent.
C'est un petit peu différent. Il faut dire que vous aimiez beaucoup lire. Vous l'avez dit, vous avez fait par la suite des études techniques à Shawinigan. Mais auparavant, est arrivé un phénomène assez extraordinaire en 1952, l'arrivée de la télévision. Et pour vous, ça a été toute une découverte.
Oui, la télévision qui est rentrée chez nous. D'ailleurs, chez nous, ça a pris un petit peu de temps. Parce que mon père, on n'était pas riche. Hein, et puis, ça prenait des antennes. Hein, des antennes de au-dessus de 100 pieds pour aller chercher les postes...
De Québec?
Québec, Sherbrooke.
Sherbrooke.
Et parce que je me souviens qu'il y avait un vendeur dans le village, un vendeur de TV, et il y avait une antenne de. il prenait les postes Montréal là, et les postes américains. Tout ce qu'on voyait, c'était beaucoup de neige. Bon, c'était à peu près tout ce qu'on voyait.
Même en été.
Même en été. Et puis on regardait la TV au travers d'une fenêtre. C'était pas disponible.
Là. Mais pour vous, c'était un univers culturel qui s'ouvrait soudainement. Le théâtre.
Oui, on parlait des Beaux Dimanches. Moi, les Beaux Dimanches, j'ai les pièces de Marcel Dubé, j'ai tout vu. Là. J'ai découvert le théâtre. Parce que pour moi, je savais même pas que ça existait, ça-là. Là.
On va y revenir. Vous parlez de théâtre. Vous avez découvert la musique aussi, les opéras.
L'opéra, ça a été beaucoup plus tard.
Ouais. Parfait. Mais là, vous nous proposez quand même un extrait interprété par une très belle voix, un extrait de Rinaldo de Georges Friedrich Händel. C'est la scène, extrait de la scène 4 de l'acte 2.
Lacia, ciao, pianga. Avec Suzy Leblanc.
Okay. Et l'orchestre Arion, qui est sous la direction de Stephen Stubbs. Voici donc cet extrait de Rinaldo.
You
Sur Suzy Leblanc, parce que je
Suzy
pense...
Leblanc, c'est pas... C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a une voix qui vient me chercher, et c'est le plus bel instrument. C'est, je crois, Suzy Leblanc, un instrument de musique, là, de la voix féminine qui, dans toute sa splendeur.
Alors, revenons à ces découvertes. Vous avez découvert quand même le théâtre. Vous me disiez un jour que c'est peut-être un métier que vous auriez aimé exercer, celui de comédien ou d'acteur.
Oui, peut-être. D'ailleurs, on avait une salle paroissiale et j'avais personnifié une fois. J'avais trouvé dans le grenier chez nous un manteau en peau d'ours et j'avais personnifié le père Gédéon. Sur la scène, je ne me souviens pas là, combien de temps que ça avait duré, mais ça a été une fois que ça, j'aurais... Mais pour moi, c'était pas un métier, là. On est loin de Montréal en 1960, là. On n'avait pas d'auto. Quand la TV est arrivée... les beaux dimanches, il y avait, c'est ça, c'était pour moi une découverte de beaucoup de choses.
Et au-delà du théâtre, il y avait quand vous étiez quand même jeune en 52, vous aviez 10 ans en 52,
oui.
Vous alliez voir votre grand-père maternel.
Ah, oui.
Il demeurait pas très loin, lui.
Dans ce temps-là, c'était à 2000 quand même. Et lui, il y avait... Nous autres, on ne l'avait pas à TV. Mais lui, il y avait une TV. Et puis, il y avait des dessins animés. Je partais en vélo à la Brunante. Hein? On est à l'automne. Et j'allais voir mes dessins animés chez mon grand-père. Ça pouvait durer peut-être une demi-heure, je pense. C'était la Souris-Miquette, là, puis tout ça, là. Et puis, je retournais à la maison.
Je suis certain qu'à travers ce que vous nous racontez, Renaud Guenon, il y a des gens à l'écoute qui se retrouvent, qui ont vécu des histoires qui se ressemblent, cette découverte de la télévision, ce partage auprès des aînés, qui étaient souvent des gens qui habitaient pas tellement loin de la demeure familiale. Ce sont des histoires qui se sont répétées à plusieurs reprises.
Sûrement, oui.
Au Québec.
Sûrement, parce que la télé a changé tellement de choses.
Alors, on aurait fait le tour de l'île qu'on retrouverait les mêmes histoires.
Le tour de l'île, pour moi, c'est... Félix, je l'écoute à chaque fois, c'est une découverte. Je m'arrête et je m'imprègne de cette pièce-là.
Supporter le difficile et l'inutile, y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver. Y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose, comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous, les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, écoute encore. Maison de bois, maison de pierre, clocher pointu. Et dans les fonds des pâturages, de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre. Imaginez, imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière, parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça. L'île d'Orléans, notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est-y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. ça signifie l'heure est venue. Si t'as compris,
le tour de l'île Félix Leclerc, vous me disiez, tant qu'on écoutait cette pièce, que vous souhaiteriez même entendre que cette pièce soit jouée pendant vos funérailles.
Oui, oui, oui. Pour aujourd'hui, je crois, on écoute bien des choses, on écoute bien toutes sortes de chansons, sans vraiment s'arrêter aux paroles. Je demanderais à la personne de dire aux gens, écoutez les paroles et imprégnez-vous de ces paroles et de cette musique. Il y a tellement de choses là-dedans.
Tout à fait. Et Félix n'est pas considéré pour rien comme étant ce grand chansonnier du Québec qui a ouvert la voie à bien d'autres. Roland Grenon, la semaine dernière, vous nous parliez du bénévolat et vous nous faisiez aussi découvrir une pièce très belle d'Éric Satie, la Gnossienne numéro 1. Bien, on a fouillé pendant la semaine et puis on a découvert une interprétation un petit peu différente de cette Gnossienne d'Éric Satie. En fait, c'est une pièce qui a été refaite par un groupe qui s'appelle, c'est un groupe italien, Decostruttori Postmodernisti, qui veut dire déconstruction postmoderne. En fait, c'est quatre musiciens qui jouent du piano, du violoncelle et de la trombone, et qui nous offrent ici une introspection de Satie qui rencontre presque l'ironie déconstructiviste. Voici la version que moi je considère comme étant la plus aérienne, la plus originale, la plus dérangeante aussi, pourrait-on dire, de ce qu'a fait Éric Satie. On vous la propose.
Thank you.
avouez que ça sort un petit peu de l'ordinaire.
Un peu, oui. Donc, mais... j'ai jamais entendu celle-là. Là.
Mais on reste quand même près de l'œuvre.
Oui,
de
oui, oui, oui.
On va parler de vos études. Vous disiez que, bon, ça a été un choc quand vous êtes passé de l'école de rang au collège, ensuite à l'école du village. Mais vous avez travaillé fort ensuite pour réussir vos études.
Oui, c'est pour ça qu'on parlait de la, lorsque j'étais à Shawinigan, mes études techniques, ça coûtait, je restais en pension, chambre et pension, dans une famille, ça coûtait 20 piastres par semaine, là. Mm-hmm. 20 piastres par semaine, on va pas loin aujourd'hui avec ça, là. Mais moi, j'étais logé, nourri, lavé, et puis... j'avais pas les moyens pour sortir. Donc, je ne sortais pas, j'étudiais.
Et vos études ont été suffisamment intensives pour que vous décrochiez assez rapidement au terme de vos études. Plusieurs emplois, vous en avez eu 3 en 6 mois.
Oui, oui. Le début n'a pas été facile. Hein?
Mais vous avez quand même, ça n'a peut-être pas été facile, mais ensuite, vous avez eu cette chance de pouvoir... décrocher un emploi à Baie-Comeau?
Oui, oui. Bien, Haute-Rive, maintenant, qui est rendu Baie-Comeau. Haute-Rive et Baie-Comeau, c'était deux villes différentes. Aujourd'hui, ce n'est qu'une ville. Je débarque en janvier. Je débarque de l'avion. C'est la première fois que je prends l'avion. C'était des F-27. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des avions à hélice avec les ailes au-dessus de la carlingue, là. Je débarque là et puis j'entends mon nom dans l'aéroport. On me demande. Alors, j'ai débarqué à, je ne me souviens pas, peut-être 8-10 heures du matin. Et à 1 heure, j'étais au travail.
Et là, vous êtes allé travailler ensuite sur un chantier de barrage.
C'est ça. C'était sur le chantier Outarde 2 qui était à ce moment-là seulement en préliminaire qui appelle. C'est que c'est a fallu enlever toute toutes les arbres et puis faire toutes les études nécessaires pour construire la centrale qui existe aujourd'hui, là, qui est à l'entrée de Baie-Comeau.
Alors, une jeunesse très occupée, pas beaucoup d'amour.
Non, je travaillais 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Il n'y a pas grand place pour d'autres choses.
Et finalement, ben, vous avez quand même trouvé l'amour, vous vous êtes marié,
oui.
Vous avez eu des enfants, oui. Vous en avez eu 3.
Oui, 3 garçons.
3 garçons. Vous avez travaillé comme enseignant pendant quoi, 30
j'ai,
ans?
J'ai parti de la Côte-Nord en 1969 avec mon épouse dans le temps. Et puis, pour s'en revenir à Montréal, parce qu'il n'y avait plus de travail pour moi sur le chantier, parce que je n'étais pas à l'emploi de l'Hydro-Québec. J'étais à l'emploi d'une...
Une firme d'ingénierie.
Une firme d'ingénieur conseil, oui. Et puis là, il me rapatriait au bureau. Et puis, c'était le début, la fondation de l'Université du Québec à Montréal.
Et vous avez eu le courage de retourner aux études.
Oui, pendant 3 ans.
Et vous avez obtenu votre diplôme alors que vous étiez âgé de 30 ans. Fallait le faire à cette époque, d'avoir ce courage de retourner aux études.
Ça a été une période, pour moi, ça a été la plus belle période de ma vie.
Et ça vous a amené à l'enseignement.
Oui, c'était le diplôme en enseignement spécialisé qui appelait. Et puis, on a été le groupe dont je faisais partie en 1972, les premiers diplômés qui ont fait le cours au complet à l'UQAM. Il y en a qui étaient diplômés avant, mais ils avaient commencé ailleurs. Parce que l'UQAM a été fondé en 69, le cours de 3 ans, 72.
Alors, à l'instar de Vigneault, qui parle de ma jeunesse, et qui dit « J'ai pourtant cueilli mes saisons sans en laisser échapper une. J'ai pourtant payé à la lune tribut de rimes et de raisons. Ma part de rêves et de chansons, la voici. »
pas fait tout mon chemin, que déjà je tourne la tête pour découvrir comment c'est fait. Ma jeunesse et je n'en sais rien. Ma jeunesse et je n'en sais rien. Et là, du passé poliment, et pour ne déranger personne, n'a laissé que l'écho qui sonne au fond de la tête et qui ment, au fond de ma tête et qui ment. Peut-être sans que je l'ai su, avons-nous fait la route ensemble tout le long de ces jours qui tremblent d'être passés inaperçus, qui sont passés inaperçus. J'ai pourtant cueilli mes saisons sans en laisser échapper une. J'ai pourtant payé à la lune tribut de rime et de raison, ma part de rêve et de chanson. D'après le vent, afin que tu m'y reconnaisses. Et si j'ai croisé ma jeunesse, l'aurais laissé passer devant. Je l'ai laissé passer devant. Laisser passer devant.
Je m'en venais d'après le vent afin que tu m'y reconnaisses. Et si j'ai croisé ma jeunesse, l'aurais laissé passer devant, l'aurais laissé passer devant. Est-ce que vous l'avez laissé passer devant, votre jeunesse, M. Gredon?
Un peu, oui. Oui.
Avez-vous des regrets?
Ça ne donne rien de regretter. Je pourrais en avoir, mais je ne m'arrête pas là-dessus.
Pour vous, très rapidement, deux mots, un petit quiz. Qu'est-ce que c'est que la définition de la vie?
La vie.
D'autant que vous travaillez comme bénévole auprès de gens qui sont atteints de maladies incurables, donc qui sont en phase terminale, j'imagine que votre notion de la vie est peut-être différente.
Oui, sûrement, parce que on se lève le matin. Moi, à tous les matins que je me lève, je me dis, je suis content.
Vous la savourez, cette vie.
Oui, 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 oui. Je me souviens, il y a un monsieur qui est venu me voir à un moment donné à la maison, à Victor Gadebois, puis je suis dans la salle à dîner. Il vient me voir et puis il dit... J'aurais aimé ça, il dit, faire du bénévolat. Il dit, j'ai 66 ans, je crois. Mais il dit, voyez, il dit, je pourrais jamais. Moi, j'en avais à ce moment-là peut-être 5, 6, peut-être plus que lui, là. Puis c'est ça, il m'a regardé, il dit, moi, je pourrais jamais.
Rendre au bout, se rendre à soi. Vulnérable et fort à la fois. Rêvant, riant, chantant, fêtant, aimant, créant, criant, tombant. Je me tairai sans m'arrêter, laisserai dans mon sillage toute la joie que j'aurai donnée. Comprendre tout, comprendre quoi? Raisonnable et fou à la fois, niant, doutant, souriant, charmant, tremblant, brillant, brûlant, souffrant. Je me tairai sans m'arrêter, laisserai dans mon sillage toute la joie que j'aurai donnée. Défier sa peur, dompter sa peine, redoutable et doux à la fois, piquant, mordant, rageant, touchant, pleurant, planant, plongeant, cédant. Je me tairai sans m'arrêter, laisserai dans mon sillage toute la joie que j'aurai donnée. Du début aller à la fin. Ooh. Ooh. Trois petites lettres qui s'allument comme trois flambeaux pour éclairer le dernier chemin.
Une chanson tout appropriée qu'on vient d'entendre, celle de Michel Robidoux, « Le dernier chemin ». Il est vrai que la vie est courte. Cette chanson de Robidoux, il l'avait composée pour son grand ami qui est disparu, Jean-Guy Moreau, mais qui donne vraiment l'essence de ce que vous nous expliquiez, la vie. Avant de terminer, un petit quiz rapide, encore quelques mots. Le bonheur, vous le définissez comment?
Le bonheur, c'est... Il y en a qui le cherchent, ils ne le trouvent jamais. Le bonheur, c'est...
Vous, l'avez-vous trouvé?
Oui, je crois que oui. Oui, oui. Oui. Le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime avec des gens avec qui on s'entend bien. C'est... Pourquoi chercher plus loin? C'est pas l'argent qui... Il y a des personnes qui sont extrêmement riches, qui sont malheureux.
Votre plus beau voyage?
Moi, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est en Russie. Saint-Pétersbourg, Moscou. On a fait Saint-Pétersbourg, Moscou en bateau par le canal. Le nom me... En tout cas. Et puis ça, pour moi, ça a été un des plus beaux voyages.
Est-ce que vous avez encore des rêves?
Ah oui? Ben oui. Genre. Je rêve.
Sont-ils secrets ou peut-on en évoquer quelques-uns?
Ben, je pense que le rêve, là, c'est surtout pour le bien-être de l'humanité, je crois. On voit avec tout ce qui se passe, là, toutes les déchets. C'est un jour, il va falloir faire quelque chose. Parce que encore aujourd'hui, j'écoutais un reportage sur le plastique. Le gouvernement, il nous promet des choses, mais il va falloir.
Mais il faut garder espoir.
Oui, il faut. Il faut.
Ben, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi pour cette action bénévole que vous faites avec autant de générosité auprès de la Maison Victor Gadebois. Et on va se quitter, Ronald Grenon, avec, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé des Beaux Dimanches.
Oui.
Que diriez-vous de réentendre le thème d'ouverture des Beaux Dimanches?
Ça, oui, ça.
On devinera presque la voix d'Henri Bergeron qui nous dit
ouais.
bonsoir.
Ouais.
Alors, c'est un extrait, c'est l'extrait finale, l'Allegro, la symphonie numéro 3, opus 27, de Carl Nielsen, qui est un compositeur norvégien. C'est interprété ici par l'Orchestre symphonique de San Francisco sous la direction d'Herbert Blomstedt. Et le temps de vous dire, bien sûr, que cette émission a été réalisée sous la supervision toujours extraordinaire de notre technicien, Pierre Degagné, à l'animation et la réalisation Armand Dubois, qui vous parle. Et notre invité était Ronald Grenon. Juste un petit mot en terminant, Ronald Grenon, quelle est votre prochaine activité là, qui va être un peu hors de l'ordinaire? Parce que vous avez souvent une vie avec plein de surprises.
Oui, bien là, on prépare un voyage parce que j'ai un ami à Nantes, en France, et qui a un petit problème de santé que je connais depuis 1976, et on se prépare à aller le voir.
Et juste le préciser, vous aviez rencontré cet ami lors d'un voyage d'échange d'enseignants grâce à une entente qui avait été signée par Robert Bourassa et Jacques Chirac.
C'est ça. Oui.
Voilà. Ben, bonne semaine et merci de votre passage.
C'est moi qui vous remercie.